ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Pascal Berre-Demander. Merci Pascal d'être venu pour nous parler de vos convictions, de votre foi. Vous êtes syndicaliste, retraité de la fonction publique, philatéliste et plein d'autres choses encore. Comment vous arrivez à faire tout ça? Mais d'abord, dites-nous d'où vous venez, votre enfance.
Merci Benoît de m'accueillir ici. Nous sommes amis depuis longtemps, mais en fait, oui, j'ai un certain nombre de petits secrets que je vais révéler à travers ma foi, j'y crois. Ben, je suis en fait marié à Chantal Berre-Demander, donc il se trouve que je suis co-délégué du CIF, mais ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Ma présence ici, c'est de dire ma foi, j'y crois à travers mon engagement quotidien et à travers mon action. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui pratiquent l'adoration du Saint-Sacrement, mais moi, je suis plus dans l'action quotidienne. Voilà, chacun sa façon de croire sa foi. Donc, je suis marié, père de famille de 4 enfants, grand-père de 6 petits-enfants. Et à la retraite, j'ai la chance d'avoir pu prendre ma retraite à 60 ans parce que, en fait, depuis l'âge de 16 ans, je travaille et je travaillais dans la fonction publique. Donc, pourquoi la fonction publique? Bah parce que le service des autres, le service aux autres, c'est important. Donc, j'ai commencé comme auxiliaire temporaire de renfort à la poste. Ah. Voilà.
D'où l'intérêt pour les timbres qui va nous occuper tout à l'heure.
Tout à fait, puisque j'ai commencé ma vocation de philatéliste à commencer à l'âge de 10-11 ans. Donc, c'est en effet à peu près concomitant. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Je faisais le facteur, en fait, tout l'été dans mon île de Ré chérie, dont on aura l'occasion de reparler. Voilà, et puis dans mon activité professionnelle, puisque j'ai terminé directeur territorial au Conseil régional d'Occitanie, j'ai été très engagé, puisque j'ai toujours eu une activité de représentation. J'étais le délégué du personnel de catégorie A, mais j'avais choisi la CFDT, qui est un syndicat interprofessionnel et intercatégoriel, parce que j'estime que c'est celui qui correspond le mieux, justement, à mes convictions de partage et d'équité.
Une forme d'œcuménisme, d'ouverture aux autres, d'acceptation de la diversité?
Absolument, absolument. La CFDT s'est toujours illustrée par la défense de l'équité entre les genres. Ça a été un des premiers syndicats à se battre pour la reconnaissance et le respect des choix sexuels dans la vie professionnelle et du respect donc, de ces personnes, des problèmes liés aussi à la couleur de peau, etc. Donc oui, la CFDT pour moi correspond vraiment à mes convictions intimes d'humanisme.
Oui, mais certains diront, mais c'est l'excès de compromission, c'est pas assez radical, on peut changer la société?
Je pense que la CFDT fait partie de ces grands organismes qu'on appelle intermédiaires qui peuvent participer au changement de la société. Et d'ailleurs, quand Laurent Berger parle, on l'écoute. Donc, ce n'est pas tout à fait un hasard, y compris le président de la République. Donc, je pense qu'on a des choses intéressantes à dire. Et on est 1 million d'adhérents. Donc, ce n'est pas tout à fait rien.
Dans le cadre d'une société laïque, puisque la CFDT et la CFTC ont bifurqué à un moment donné. Mais vous étiez tombé dans le bénitier quand vous étiez petit, votre maman, votre
Alors,
papa,
oui,
vous ont transmis certaines valeurs catholiques, chrétiennes, universelles.
Tout à fait, je suis d'une famille de catholiques pratiquants, sauf qu'il se trouve que maintenant, sur les 6 personnes qui constituent ma famille, bon, dont une grande partie est décédée, je suis le seul à être encore pratiquant. Donc voilà, ma famille a pris pas mal de distance avec tout ça. Oui, ça a joué beaucoup dans mes choix de vie. Mais je suis aussi un bon Français, bien laïque. Et j'estime qu'on a beaucoup de chance d'avoir la loi de 1905 qui sépare bien la religion de la vie du quotidien et de la République et des institutions républicaine.
On met pas la croix sous son mouchoir dans sa poche, ou alors on vit autrement une manière de certaines valeurs.
Voilà, c'est un partage de valeurs plus que du rentre dedans,
de l'affirmer.
Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le synode des années 80 à Toulouse, j'ai distribué à mes collègues de la région le questionnaire, y compris à des gens qui n'étaient pas du tout, du tout proches de l'Église. Mais je l'ai fait dans le respect donc, du refus du prosélytisme. C'est-à-dire, j'ai pris les devants, je l'ai fait à des moments qui étaient hors travail et je me suis expliqué. Donc, je n'ai jamais caché mes engagements, mais je respecte profondément la laïcité au quotidien.
Alors, juste encore une question intime, mais vous dites pratiquant, ça veut dire peut-être messalisant ou pascalisant, comme disaient les sociologues il y a encore 50 ans. Mmh. La spiritualité, la prière, c'est intimement lié à cette pratique et à ces engagements politiques ou syndicaux?
Il y a un temps pour tout. Je pense que, voilà, je le disais au début, le pragmatisme, c'est bien. Vivre, essayer de vivre, parce que ce n'est pas facile, ses convictions au quotidien, dans sa pratique professionnelle, dans sa pratique syndicale, etc. Moi, je pense que c'est majeur. Mais il y a aussi un temps pour la prière, pour l'adoration, parce que ça m'arrive aussi. Bon, il se trouve que le dimanche, eh ben, on peut dédier une heure et demie de sa vie et de son temps à ce dialogue avec Jésus et avec une communauté qui est la communauté de ma paroisse. Il se trouve que je suis très gâté puisque je suis à la paroisse Saint-Esprit, Saint-Christophe, qui est une paroisse extrêmement ouverte sur le monde, sur la rive gauche de Toulouse.
Mais un ami rabbin que nous avions interrogé ici disait « Je ne suis pas juif parce que mes parents m'ont appris ou par ma naissance ». Je suis juif au moment où je transmets à mes enfants mes convictions et ma foi. C'est peut-être un autre débat pour
une
émission.
C'est une petite blessure parce que je voulais expliquer non seulement ma famille, mais mes ascendants se sont beaucoup éloignés de l'Église, mais mes descendants aussi. Mais parmi mes quatre enfants, aucun n'est pratiquant. Mais ils pratiquent une forme de spiritualité que j'aime. J'ai une fille en Colombie, par exemple, qui vit au milieu des Amérindiens et qui les aide à faire constituer des vergers, à cultiver le café, etc. Et je trouve qu'elle a une démarche christique, hein, d'une certaine manière. Et puis, mes petits-enfants, j'ai quand même des petits-enfants baptisés, et j'ai deux petites filles qui vont faire leur communion, et je participe à leur catéchisme.
Et vous vous retrouvez à l'île de Ré, puisque vous nous en aviez parlé, et vous nous avez apporté une chanson de Gainsbourg.
Algues brunes ou rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble, que goémons. Que des fleurs arrachées, se mouvant comme les noirs goémons. Que l'on prend, que l'on jette, comme la mer rejette les goémons. Mes blessures revivent à la danse lascive des goémons. Dieu, comme elle était belle, vous souvenez-vous d'elle, les goémons. Elle avait la langueur et le goût et l'odeur des goémons. Je pris son innocence à la sourde cadence des goémons. Algues brunes ou rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble, que goémons. Que des fleurs arrachées, se mourant comme les noirs goémons. Que l'on prend, que l'on jette, comme la mer rejette les goémons.
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Pascal Baird de Minder, vous êtes retraité de la fonction publique, vous êtes syndicaliste, ou vous avez été syndicaliste convaincu et philatéliste. Alors, cette chanson un peu nostalgique de l'île de Ré, c'est beau?
Oui, bah, j'aime beaucoup Gainsbourg. Hein. C'était pour moi un des plus grands chanteurs de notre époque. Et je trouve que cette chanson traduit bien la nostalgie que j'ai d'une île de Ré un peu perdue. Alors, c'est toujours très beau. Hein. C'était un endroit absolument magnifique, un paradis, mais qui s'est un peu privatisé du fait du coût du foncier. Et c'est une île où j'ai vécu une grande partie de mon enfance. J'y suis quasiment né. J'y suis allé à l'école et j'y ai vécu de très, très grands moments. Puis j'y ai vécu aussi le début de ma carrière professionnelle, puisque je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai commencé comme facteur. Facteur à l'île de Ré l'été. Je distribuais le courrier voilà, dans les campings, mais aussi dans les villas, etc.
Alors, de facteur, on monte à Paris ou on monte dans la région et on fait des études pour être un peu plus élevé dans la carrière, puisque vous terminez au niveau du conseil régional.
Alors oui, j'ai fait une carrière que je renie pas du tout. J'étais fonctionnaire de l'État. Hein, j'étais donc facteur, mais ça, c'est un travail d'été. Et puis, j'ai été surveillant, maître d'internat. Et puis, j'ai passé les concours de la fonction publique et je suis devenu attaché d'administration centrale. Après avoir un court séjour, mais très important pour moi, de 3 ans, au ministère des Affaires étrangères, comme secrétaire administratif, qui m'a beaucoup ouvert sur le monde. Je m'occupais du chiffre, je m'occupais de la distribution des télégrammes dans les ambassades. Voilà, j'ai découvert que la France avait un réseau, le deuxième réseau du monde après les États-Unis, en consulat et en ambassade. Et puis, donc, le ministère de l'Industrie et un détachement à la région, à Midi-Pyrénées à l'époque, conseil régional, où j'ai fait 30 ans de ma carrière, où je me suis très, très, beaucoup engagé. C'est une fonction publique et un monde qu'on connaît mal. J'ai oublié de dire que j'avais fait Sciences Po, hein, et puis que j'avais fait aussi l'Institut des langues orientales. Ça, c'est ma petite connotation affaires étrangères. Et je suis diplômé de roumain et de polonais. Mais donc la région, le conseil régional et les collectivités territoriales, c'est un monde pas très connu du grand public parce que c'est compliqué. Voilà, et donc je suis devenu très, très vite un spécialiste avec plein de guillemets de ce domaine d'organisation des institutions locales, ce qui m'a progressivement amené à faire de la formation. Et donc maintenant que je suis retraité, je suis pas mal occupé par un cours à Sciences Po sur l'aménagement du territoire et les collectivités et l'environnement, et puis à l'école de journalisme de Toulouse où j'apprends à nos jeunes étudiant en journalisme, tout l'intérêt qu'il y a à bien connaître le monde des collectivités territoriales.
Alors, une question, parce que parfois, certains disent « je refuse de monter dans la hiérarchie parce que je trahis ou j'abandonne mes copains, mes camarades ». Beaucoup de compétences, on admire votre pénigré, mais vous pouvez être au service de la société. Ça veut dire quoi, ça, dans des cours que vous faites? Vous arrivez à faire passer un certain nombre de valeurs ou alors non, il faut s'adapter à la société capitaliste parce qu'on ne peut rien changer, on ne va pas se casser la tête contre les murs.
Bah, vous avez compris qu'avec mes engagements syndicaux, j'avais choisi donc une forme plutôt de réformisme, hein, plutôt que de révolution radicale. Je pense qu'en tant que cadre, on peut vivre sa foi aussi, puisqu'on parle de ça ici, et sa volonté d'équité. Alors, moi, j'estime que j'ai eu une chance, c'est justement de commencer très bas dans la fonction publique. Et donc, je suis arrivé comme cadre supérieur en sachant faire beaucoup de choses. Je savais taper à la machine, alors maintenant tout le monde sait le faire, mais je savais faire des photocopies, je savais, etc. Et donc, je pense que cette situation me permettait de partager un certain nombre de réalités avec toutes les catégories de la fonction publique.
Et vous avez parlé de pragmatisme, je crois que lors de la première saison, parce que nous débutons la deuxième saison de cette série « Ma foi, j'y crois » hebdomadaire, un pilote de ligne nous disait « Moi, je privilégie le pragmatisme à la spiritualité ». Mais vous, comme dirait un pape, il y a deux ailes. Il y a l'ouverture aux autres et puis il y a la réflexion sur soi-même.
Absolument. Donc, c'est sûr que quand on est. Alors, j'ai oublié de dire que j'étais terminé comme le directeur adjoint de l'environnement. Donc, j'ai dirigé une équipe d'une vingtaine de personnes. L'encadrement, c'est le management, c'est pas simple. Et donc, il y a vraiment une nécessité absolue d'être ouvert aux autres, d'écouter et de partager un certain nombre de réalités avec les personnes que vous encadrez. Sinon, ça marche pas. Voilà. Donc, moi, je suis parti avec des amis. Donc voilà, je suis parti pas avec des ennemis. J'avais toute mon équipe autour de moi quand je suis parti. Donc j'étais heureux parce que je pensais avoir réussi. Ce qui me semble le plus important, c'est en effet le partage et le travail en équipe.
Il n'y a pas de conflit au sein de ces. Alors qu'on parle tellement souvent des conflits entre la droite et la gauche, entre les réformistes et les révolutionnaires, les hommes et les femmes.
Bien sûr qu'il y a des conflits. Il y a des conflits au quotidien. Quand je vous dis le management, c'est pas facile. Il y a forcément des conflits. Quand on encadre 20 personnes, il faut trouver justement des consensus et veiller à ce que chacun ait été écouté pour qu'il n'y ait pas de frustration et que la décision finale soit partagée. Et ça joue sur des choses toutes simples, mais très importantes pour les gens, qui sont les congés, qui sont voilà, l'évaluation. Donc, tout ça, il faut être très, très vigilant, oui, au quotidien sur les convictions qu'on a de.
Et qu'ont les autres, parce que vous
Et qu'ont
parlez aux
les autres.
personnes, mais souvent
Et qu'ont les
on
autres.
s'affronte sur des chiffons rouges, on ne sait pas ce que les mots veulent dire, et chacun a peut-être une interprétation d'un mot, un sens, en fonction de ses propres intérêts, de sa situation. Et donc là, c'est un petit peu de la psychologie.
Voilà, et du bon sens, et essayer de rester pragmatique et de se baser sur sa propre expérience.
Alors les timbres. Parce
Alors
que
les
c'est
timbres.
aussi un engagement, alors au ras des pâquerettes, comme dirait l'un des
Ouais. Oui, ça paraît un
producteurs
peu
de Radio
futile peut-être,
Notre-Dame.
mais ça ne l'est pas du tout. Alors pourquoi suis-je devenu le président de l'Union Philatélique Toulousaine, qui est quand même une association très importante, puisque c'est une des plus importantes de la région. En nombre de personnes, bon, c'est pas loin entre 70 et 80 personnes, ce qui est beaucoup, hein, actuellement dans ce monde qui se délite un peu. Pourquoi? Bah, parce que c'est une ouverture au monde, parce que la base, bah, c'est la communication entre les êtres humains. Alors, c'est pas la seule, hein, maintenant on le sait bien, puisqu'il y a Internet, etc., qui fait d'ailleurs beaucoup de tort aux courriers écrits. Mais écoutez, je vais vous faire une confidence. Avant la pandémie, nous avions 6 contacts sûrs pour commencer à faire de la sensibilisation à la philatélie dans les quartiers de Toulouse, avec des enfants et des adolescents. Et pas des beaux quartiers, des quartiers sensibles, des quartiers d'Empalo et de Rennerie. Donc des animateurs périscolaires ou même des maîtres, hein, des instituteurs qui estiment que la philatélie est un excellent vecteur de communication et de partage sur la culture du monde. Ce qui est vrai, hein, je vous le confirme. Donc voilà, je suis. Puis en plus, c'est une activité qui peut être très peu onéreuse et qui en plus peut être partagée par plein de gens, y compris des gens qui sont obligés de rester chez eux parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils sont handicapés.
Alors vous avez choisi un joli timbre puisqu'il faut mettre une image ou une
Ouais.
photo sur le site pour ceux qui veulent réécouter. Mais une question, en fait, vous préparez un site, vous avez des archives considérables.
Alors, on a choisi la modernité, puisqu'on maintenant, depuis une demi-douzaine d'années, on a un site qui est mis à jour régulièrement, qui s'appelle l'UPT, Union Philatélique Toulousaine. Et on a en effet, comme c'est une association d'avant les associations, elle a 120 ans, on a fêté les 120 ans cette année, on a des archives très intéressantes, puisque c'était une société qui avait été constituée avant la loi de 1901. Donc, ces archives, elles sont précieuses et on va discuter avec un représentant des Archives nationales pour voir sous quelle forme on peut le verser ces documents qui sont relativement rares au niveau national.
Gros problème pour les classer, parce que si vous dites, bon, les avions, c'est Mermoz et on a des beaux timbres. Je me rappelle quand il y avait le timbre en RDA, c'était la Commune de Paris. Et puis vous avez bah, de Binder et la peine de mort. On va faire de la politique à travers les timbres?
Ah oui, on peut faire de la politique à travers les timbres, bien sûr. On peut faire de la politique et bon, moi je trouve que c'est intéressant. Il y a par exemple un collectionneur qui a fait un article, une collection sur les insultes. Comment le timbre peut être un vecteur d'insultes et de propagande. Alors, il y a beaucoup de timbres de Corée du Nord, il y a etc., les timbres de Libye d'avant la chute de Kadhafi. c'est pas inintéressant, c'est une forme. Moi, j'ai choisi une carte postale fameuse qui est une tin can mail. Pour les philatélistes, ils verront ce que c'est. C'est une île qui s'appelle Niaofu, qui est au nord des Tonga, dans le Pacifique, et qui est inabordable. Eh bien, les 500 000 habitants de cette île voulaient absolument communiquer. Donc, ils ont trouvé une solution. Ils jetaient, les bateaux s'approchaient de la côte, jetaient les boîtes de conserve à la mer avec des lettres dedans. Et ces boîtes de conserve étaient enfermées. Et c'était des nageurs de Niaofu qui allaient chercher ces boîtes de conserve et qui, donc, distribuaient le courrier. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près 1 200 000 lettres en 100 ans d'activité, puisque maintenant, il y a un aéroport qui permet, donc, un petit aérodrome qui permet de distribuer le courrier sur place. Mais pendant 100 ans, on a distribué le courrier comme ça. 1 200 000 lettres et 146 pays desservis. Donc, ça fait rêver. Quand l'homme veut communiquer, il y arrive.
Et le lien alors avec l'école de journalisme et les cours, parce qu'en fait on pourrait vous entendre encore des heures et en même temps il faut bientôt conclure cette émission.
Mais oui.
Vous arrivez à faire tout ça ?
J'arrive à faire tout ça parce que j'espère l'avoir fait comprendre aux auditeurs. Ce ne sont pas des activités juxtaposées, ce sont des activités coordonnées, convergentes, hein, autour de principes qui me sont chers, qui sont la communication entre les êtres humains, qui sont le partage, qui sont l'équité. Donc des valeurs d'humanisme, qui sont défendues aussi par les catholiques. Hein,
avec le sourire et la bonne humeur.
Avec le sourire et la bonne humeur. Et donc, je forme. Il se trouve que, compte tenu de ma modeste expérience, on m'a considéré apte au sein de la fonction publique territoriale à former des personnes à la préparation des concours administratifs et puis aussi à Sciences Po où j'assure en cinquième année un cours sur le développement durable et l'aménagement du territoire.
Alors, vous avez des héros, des saints, des personnes qui où vous vous sentez proche ou qui vous aident en cas de blues ou de...
Il y a une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est peut-être un peu passée sous cloche, c'est Edmond Michelet, hein, qui a été ministre d'État et qui est en cours de béatification. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un homme qui était vraiment dans l'action, il était ministre de la fonction publique, ministre de la culture après Malraux, dans les gouvernements du général de Gaulle, enfin les gouvernements Pompidou et Chaban, et il est en cours de béatification. Donc c'est un homme qui a su garder sa spiritualité, ses principes, tout en restant, en étant un haut fonctionnaire de l'État, un responsable respecté.
Et dans la Bible, le héros, le saint, la personne qui pourrait vous inspirer.
Il y en a pas mal. Moi, j'aime bien Noé. Je ne sais pas s'il a existé, mais s'il a existé, je l'aime bien.
À ces moments de pandémie, est-ce qu'on est le déluge, l'apocalypse
bien. Il n'a pas peur. Il a peur, mais il arrive à maîtriser sa peur et il construit, il protège. Et du coup, il va semer le bon grain une fois que le déluge sera passé avec sa famille.
Il lui arrive de boire un peu trop de vin parfois.
Alors, il boit un peu. Oui, il est comme moi, il est quand même d'assez bonne humeur.
Il aime bien vivre.
Il a emmené sa femme et ses enfants. Et voilà, il est très heureux de voir dans l'arche les animaux se reproduire, etc. Donc, il me plaît beaucoup.
Et il nous sauve du déluge.
Voilà. Et puis alors, vous aviez évoqué hors micro aussi un proverbe. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, que ma prof de 5e m'avait dit. C'est « Faber est soae quisque fortunae ». Chacun est l'artisan de sa propre fortune. Alors, on ne sait pas exactement d'où ça vient. On dit que c'est Salluste qui l'aurait, donc est un Romain de la grande époque, hein, de la République, qui l'aurait appris, tiré de la bouche d'Appius. Appius, c'est celui qui a à l'origine de la Via Appia, qui existe toujours, je le signale quand même. Donc chacun est l'artisan de sa propre fortune, ça me plaît beaucoup. C'est bien la prière, c'est bien de s'en remettre à un autre, et notamment à notre Dieu de Jésus-Christ. Mais c'est bien aussi, hein, je pense que c'est mieux peut-être encore, de se mobiliser soi-même pour faire face
au destin.
Au destin, exactement.
Au drame et aux calamités. Ça veut dire la fortune que c'est peut-être un petit peu le bonheur, ou si ce n'est pas le bonheur, peut-être la paix, la sérénité.
Oui, la fortune, c'est au sens de destin. Chacun est l'artisan de son propre destin. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai dans la réalité, mais il faut faire en sorte que ce soit le moins invraisemblable possible. Voilà, c'est ça, à mon avis, la morale.
Avec les autres plutôt que contre eux. En tout cas, merci pour votre sourire. Pardon, j'allais dire... Pascal, justement, parce que je remercie aussi l'autre Christophe qui est à la réalisation et qui permet ces enregistrements.
Merci Christophe, merci Benoît.
À bientôt.
Au revoir.